Go, go, la revue de presse JB.
Bonjour, moi c'est Bruno Roca, ancien journaliste jeux vidéo, actuellement game designer, level designer et chef de projet, oui tout ça, au sein du studio Storybird. Vous êtes en train d'écouter la revue de presse JV, le podcast qui vous livre chaque semaine le meilleur de l'actu jeux vidéo, vu dans la presse spécialisée ou généraliste. Allez, c'est parti! Hello à toutes et tous, bienvenue dans votre nouvelle édition de la revue de presse JV. Quel bonheur de vous accueillir à nouveau. J'espère que vous allez bien. Après une belle brochette de news, on va causer de Captain Tsubasa, on va causer du jeu vidéo qui s'invite dans les cours d'histoire. Pas mal de petites choses. Alors ce matin, par contre, pas de jeu de la semaine. Oui, l'actu a fait que je n'ai pas trouvé chaussure à mon pied cette semaine. Et aussi, un petit concours. Oui, un concours qui, cette fois-ci, concerne le bouquin La Révolution Arcade de Sega. C'est édité chez Third Edition. Et donc, je me propose de vous le faire gagner. Je vous poserai une petite question au cours de l'émission. Je ne vous dis pas quand, surprise. Il faudra me répondre, comme d'habitude, par MP. Hein. Les MP, les DM, hein, comme on dit, sont ouverts sur Twitter. Hâte, hein. Revue de presse, j'y vais tout coller. Mais on en reparle tout à l'heure. Pas de soucis. Bon, allez, on y va, c'est parti. On attaque tout de suite l'émission avec l'incontournable brochette de news. Quantic Dream et Microids rejoignent le CEL. Oui, j'ai lu ça sur GameCult. Alors le CEL, hein, je rappelle que c'est le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, et donc qui accueille deux nouveaux membres, hein, Microids. D'une part, hein, société qui s'est spécialisée notamment ces derniers temps, hein, dans les jeux à licence et la modernisation d'anciennes propriétés intellectuelles, et Quantic Dream, qu'on ne présente plus. David Cage, tout ça et toute la fine équipe. GameCult nous explique que pour Microids, hein, l'entrée au sein du CEL semble accompagner un certain renouveau, au moins en termes de volume et de business. Donc on rappelle que Microids était racheté par Hanuman en 2009, le label enchaîne les sorties, hein, des adaptations de BD comme Black Sad récemment ou Astérix, mais aussi de faire revivre des licences qui commencent à avoir quand même sacrément de la bouteille, comme Siberia ou Toki. On nous explique aussi que Microids, hein, travaille également depuis l'automne, hein, à se tourner vers l'international avec l'ouverture d'un bureau au Japon notamment. Et Microids, toujours, s'est constitué une équipe consacrée aux jeux indés. Donc Yves Bléo, vice-président de la stratégie et des partenariats de la société, donc occupera un siège au sein du conseil d'administration du CEL. De son côté, l'entrée de Quantic Dream, hein, confirme, nous dit-on, l'annonce faite l'année dernière, hein, par le studio de David Cage de vouloir désormais s'auto-éditer, mais aussi financer d'autres projets nécessitant la création d'une équipe de recruteurs chargés de trouver les jeux adéquats. Alors Sébastien Motte, hein, qui dirigera les opérations, avait d'abord déclaré, nous rappelle-t-on, que le studio cherchait des titres à l'orientation similaire à celle de Quantic. David Cage lui-même était revenu sur cette affirmation, expliquant vouloir éditer toutes sortes de jeux. L'entrée au CEL montre que le cap est tenu, nous dit GameCult. On va parler de Tencent, hein, le géant chinois, on en parle beaucoup. Et oui, puisque Tencent continue de se développer dans le secteur du JV. La dernière acquisition, on en parlait déjà la semaine dernière, hein, de Tencent, hein, qui passe vraiment des billes partout. Hein. La dernière acquisition, c'est Funcom, hein, un studio qui est notamment derrière les projets Edge of Conan, Conan Exiles et Dune. Alors Clubic nous rappelle qu'en septembre 2019, Tencent avait était déjà devenu actionnaire majoritaire de Funcom à 29% de son capital. Mais Tencent veut aller plus loin. Et la dernière offre est un rachat total, hein, de cet éditeur et développeur norvégien. Tencent souhaite donc racheter les actions détenues par d'autres entités, 17 couronnes, hein, norvégiennes, soit 1,70€ par action. Pour le PDG de Funcom, hein, c'est une aubaine, hein, pour le développement des prochains projets. Alors Dune serait le principal projet, effectivement, qui bénéficierait d'une telle opération. De plus grandes largesses seraient tolérées pour la période de production et la prod, hein, de Dune bénéficierait de moyens, bien sûr, supplémentaires. Funcom a d'ailleurs demandé de concentrer les ressources, hein, vraiment, principalement sur le projet Dune. Donc Tencent continue d'étendre son empire, nous dit Clubic, hein. Riot Games, Supercell, Shark Mob, Grinding Gear Games, départ dans Epic Games, chez Ubisoft, Paradox, etc. On parlait de Platinum Games aussi la semaine dernière, ça ne s'arrête pas. Mais du côté de chez JV.com, toujours concernant Tencent, hein, on nous rapporte que le géant compte réduire ses dépenses dans le jeu vidéo. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais peut-être que maintenant Tencent a racheté assez de studios, a mis des billes dans assez de boîtes, on ne sait pas. Mais jeuxvideo.com nous dit que Tencent souhaiterait prendre un peu de distance avec le JV ou du moins réduire ses dépenses dans ce secteur. C'est ce qu'a annoncé le président Martin Lau lors d'une récente allocution réalisée en présence des investisseurs. Dans son discours, il explique aussi vouloir se recentrer sur le smart retail et les plateformes de paiement dans les prochains mois. Les investissements donc, du mastodonte chinois dans le domaine du jeu vidéo devraient ralentir un petit peu, même si cette nouvelle stratégie pourrait finir par évoluer, nous dit jeuxvideo.com, dans les prochains mois. Alors coup de frein sur les dépenses en matière de JV, recentrage de la stratégie, nous verrons ça dans les semaines qui viennent. Mais en tout cas, ces deux infos qui s'entrechoquent, c'était assez intéressant de voir ça. Ubisoft veut faire des jeux plus variés et change sa ligne éditoriale. On nous parle de ça notamment sur GamerGen, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, ça se restructure au niveau de chez Ubi, puisque The Division 2 et Ghost Recon Breakpoint n'ont pas rempli leur objectif de vente, nous dit le site, obligeant le studio français à revoir sa stratégie et à repousser trois jeux très attendus, à savoir Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine et Gods and Monsters. Ubisoft compte rebondir et a décidé donc de revoir sa stratégie de production. Ubisoft veut faire, nous dit-on, des jeux plus variés. Et donc c'est au tour du responsable de la ligne éditoriale du studio que des vice-présidents vont régulièrement faire des propositions de jeux avec pour chaque pôle une plus grande autonomie et des choix un peu plus variés. Même si ces derniers temps, Ubisoft avait de temps à autre poussé des petits projets avec des petites équipes internes où ils essayaient vraiment de sortir de ce qu'on appelle des jeux à la Ubi, un peu tous calqués sur le même modèle. Donc là, ils vont pousser ça beaucoup plus loin. Je pense que le fait de vraiment de trop se répéter dans les structures de jeu commence à lasser le public, même si les critiques, ça faisait très longtemps qu'ils mettaient un petit peu cette redondance en exergue. Là, c'est vraiment la stratégie donc éditoriale qui est complètement chamboulée. Donc parmi ces vice-présidents au niveau de la ligne édito, on devrait retrouver, nous dit-on, par exemple, Tommy François. Vous avez connu, si vous regardiez Game One à l'époque, qui travaille chez Ubi maintenant depuis très très longtemps. Des membres aussi basés au Canada, comme Patrick Plourde, le directeur créatif de Child of Light, ainsi que Maxime Bellan, directeur créatif des derniers Splinter Cell, qui vient de passer d'ailleurs un an chez Epic Games. Bon, je sais pas vous, mais j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va sortir de cette nouvelle équipe. On en reparle bien sûr très rapidement, dès qu'on a du biscuit à se mettre sous la quenotte, dans l'émission. Kojima Productions souhaiterait sortir davantage de jeux. Oui, après le succès de Death Stranding, Kojima Productions a pour ambition de sortir donc d'autres titres, mais avec toujours beaucoup d'ambition derrière. C'est GameWave.fr qui nous cause de cela et qui nous explique qu'après quelques semaines, après avoir lancé donc le Death Stranding que tout le monde attendait, je vous en ai déjà parlé, très heureux les 30 premières heures et après un petit peu deg après, bon, ça c'est encore autre chose. Monsieur Kojima donc annonçait déjà qu'il travaillait sur un nouveau projet, qu'il n'a bien évidemment pas encore détaillé, même s'il a à moult reprises indiqué qu'il souhaitait créer un jeu d'horreur. Ça, j'aimerais bien qu'il relance un petit peu le projet Silent Hills sous un autre nom, avec son copain Del Toro, même si du côté de chez Konami on s'apprête aussi à sortir des jeux estampillés Silent Hills, ça me fait très peur, bref, ça sent encore autre chose. Lors d'une interview avec le magazine Famitsu, donc Kojima, accompagné de son compère Yuji Shinkawa, a expliqué son envie et ce que pourraient proposer les studios dans les années à venir qui ne comptent pas s'arrêter donc en si bon chemin. L'objectif, donc, nous rapporte GameWave, sera de travailler sur différents jeux. Si la majorité de ces œuvres ne seront pas des productions conséquentes, Kojima Productions souhaite bel et bien développer un autre grand jeu possédant un budget important, à la manière de Death Stranding, pour faire parler du studio à l'international. Alors on parle éventuellement d'un jeu épisodique à la manière des Life is Strange ou encore des jeux tels. Ça aussi, c'est dans la tête de Kojima et de ses équipes. Et on nous dit aussi que Kojima Productions aimerait toucher d'autres milieux en créant un manga ou encore une adaptation en animé. Kojima aussi n'a pas manqué de répéter son envie de réaliser un film qui pourrait être axé sur l'horreur. Bon, ça fait beaucoup de projets. On nous rappelle quand même qu'en plus de sa disponibilité sur PlayStation 4, Death Stranding sera porté sur PC, Steam et Epic Game Store. Et une suite de Death Stranding n'est d'ailleurs pas inenvisageable, selon toujours le sieur Kojima. Ben en parlant d'horreur, on va parler de Project Mara. Project Mara, c'est le nouveau projet du studio Ninja Theory. Hellblade, Hellblade 2, etc. Je vous ai souvent parlé de Ninja Theory, et si vous vous souvenez de ça, il y a quelques émissions, je vous avais traduit un article qui était paru, il me semble, sur Game Industry, qui parlait vraiment toujours... et c'était pas la première fois que je vous en parlais d'ailleurs, de cette volonté du studio anglais de vraiment pousser la recherche sur tout ce qui était maladie mentale, sur tout ce qui était psychologique avec des professionnels, avec des médecins, pour non seulement aider à mieux comprendre ce qui se passe dans notre cerveau, et aussi d'essayer de mettre en place de nouveaux concepts narratifs, une nouvelle manière d'aborder la narration dans le JV. Tout ceci est résolument passionnant, je vous en ai parlé maintes et maintes fois. Et donc là, on a eu un trailer, alors un trailer qui montre pas grand-chose, hein, c'était plutôt une cinématique, donc Project Mara, un titre expérimental, là nous dit Gameblog, qui compte explorer de nouvelles façons de raconter une histoire. Donc oui, la firme de Cambridge, hein, Ninja Theory, explique qu'il sera question de découvrir une représentation de la terreur mentale dans un monde fidèle à notre réalité. Le tout s'appuiera bien sûr sur la collaboration avec le professeur Paul Fletcher, donc c'est autour aussi de ce professeur dont tournait l'article que je vous avais traduit il y a quelques semaines, spécialiste des neurosciences officiant à l'université de Cambridge. Donc c'est à peu près tout ce qu'on sait sur ce Project Mara. Je rappelle que Ninja Theory est un studio maintenant Microsoft, donc on peut s'attendre à une sortie bien sûr sur les Xbox Series X, mais aussi sur PC. J'ai vraiment hâte, vraiment hâte d'en savoir plus. Eh bien écoutez, pouf, je vais vous parler du concours maintenant. Hein. Allez, c'est dans la brochette de news. Innovons, soyons foufou. Sœur d'Edition et la revue de presse JV, main dans la main, les yeux rivés vers l'horizon, vous font gagner donc la révolution arcade de Sega. C'est le dernier bouquin de Third Edition, maison d'édition de qualité s'il en est. C'est pas la première fois que je vous fais gagner un bouquin de chez Third. Il est là, il est devant mes yeux, il est sous blister, et comme je le disais sur Twitter, j'ai qu'une envie, c'est de le dévorer. Ah, Sega, quand même, je pense que, autant moi que vous, c'est un nom qui compte, qu'on porte dans notre cœur, hein, quand on est passionné de jeux vidéo. Et Sega a été vraiment l'un des architectes, hein, vraiment de l'arcade, l'un des innovateurs majeurs, l'un des acteurs incontournables qui a façonné l'image du jeu vidéo japonais. Et donc le bouquin est là, sous blister, prêt à être envoyé. Donc pour cela, vous avez, allez, je vous donne jusqu'à dimanche soir, hein, donc là, de dimanche qui arrive, pour me donner la réponse à cette question. Qu'est-ce que je vous souhaite à chaque fin d'émission ? Réponse numéro 1, panache et honneur. Réponse numéro 2, force et honneur. Réponse numéro 3, panache et robustesse. Réponse numéro 4, je te claque le béco, mon poteau. Vous me répondez donc par message privé sur Twitter, @revuedepressejv, tout collé. Vous connaissez les règles de la maison, pas besoin de suivre le compte, même si ça me fait plaisir si vous le faites. Mais pas besoin de follow, pas besoin de RT, non. Juste un petit MP. Voilà, les messages privés sont ouverts sur Twitter. Je rappelle, @revuedepressejv, tout collé. Vous me répondez. Tirage au sort avec le petit screenshot qui fait foi. Et hop, je vous envoie donc le bouquin chez vous directement avec un petit mot doux parce que on est bien élevé à la revue de presse JV, on sait y faire. Voilà donc, à vos MP et j'ai envie de vous dire, bonne chance. Allez, on passe à la suite. Le sondage que je vous avais posé là, la semaine qui vient de s'écouler, concernait les reports. Et oui, je vous demandais parmi ces nombreux reports, lequel vous rend le plus tristoun. Et oui, la semaine dernière, c'était l'annonce vraiment massive de report. Alors, je vous avais donné 4 choix, à savoir Cyberpunk 2077, Marvel's Avengers, The Last of Us Part 2 et Final Fantasy VII Remake. Donc, à savoir lequel de ces reports vous rendait le plus tristoun ou vous embêtait le plus. Et effectivement, certains m'ont fait remonter que je n'avais pas proposé l'option aucun, qu'aucun des reports ne vous embêtait. Et oui, là, vraiment, gros mea culpa, j'aurais dû le faire, puisque vous êtes vraiment... Enfin, il y a pas mal d'entre vous qui m'ont dit, aucun. J'y penserai pour la prochaine fois, je m'excuse encore si vous n'avez pas pu voter. Mais en tout cas, 135 votes, hein, on a battu le record, donc merci à toutes et tous. Et donc le report qui vous rend le plus triste parmi ces 4 propositions, c'est sans surprise, hein, Cyberpunk 2077 à 43,7% non, victoire écrasante de Cyberpunk, qui est moi un jeu que j'attends beaucoup également. Alors pas autant que The Last of Us Part 2 et FF7 Remake, excusez-moi, mais oui, c'est un jeu que j'attends énormément aussi. En tout cas, pour vous, c'est écrasant. Marvel Avenger, je m'y attendais, hein, 6,7%, vous n'êtes pas très nombreux. Bon, ça, c'est pas une grosse surprise. Après, ça s'est battu entre The Last of Us Part 2 et FF7 Remake, 25,9% d'entre vous. Donc, sont tristes, hein, en gros, sur la patata, sur le report de The Last of Us Part 2, même si ça, on l'a pas appris la semaine dernière, hein, The Last of Us Part 2, on l'avait appris un petit peu avant. Et FF7 Remake, vous êtes 23,7% à être triste de ce report. Moi, c'est... Alors, triste, c'est pas le mot, puisque moi, je préfère qu'on repousse pour que les équipes aient le temps vraiment de fignoler le jeu, même si dans le cas de Cyberpunk, c'est un peu triste, parce que ça veut surtout dire du crunch en plus pour eux, et ça fait mal au cœur. Mais bon, dans tous les cas, pour FF7 Remake... Voilà, ça me dérange pas d'attendre un peu plus. Mais bon, oui, c'est celui où ça m'a le plus affecté à titre personnel. Donc 23,7% pour Final Fantasy VII. Donc majoritairement, hein, vous êtes team Cyberpunk. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui fait tellement envie. Même si je commence vraiment à me dire que j'y jouerai plus sur PC qu'ailleurs. Bref, en tout cas, un nouveau sondage là, au moment où vous écoutez l'émission, est en ligne sur le compte Twitter de l'émission. À ta revue de presse, je vais tout coller. Toi-même, tu sais. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Et puis, bah, on débriefe tout ça. La semaine prochaine, bien sûr. Captain Tsubasa, plus connu chez nous sous le nom d'Olivier Tom, nouveau jeu donc Tsubasa, Rise of the New Champions, a été récemment annoncé, hein, c'est chez Bandai Namco que ça se passe, ça sortira chez nous sur PC, Switch et PS4, ce sera, nous dit Factor News, un jeu de foot arcade, un genre tristement laissé à l'abandon, il est vrai. Forcément, nous dit CBL, hein, sur Factor News, il sera en cel shading ce Captain Tsubasa et permettra d'incarner les héros de l'anime et de sortir leurs super attaques. Bref, sur le papier, cela fait rêver. Le jeu est développé par Tamsoft, hein, qu'on connaît pour des jeux nanardesques, hein, c'est Factor News qui le dit, comme One Shambara. Vous avez vu ça popper sur tous les sites de news. Bon, j'ai un peu regardé les retours des uns et des autres, hein, puisque des sessions de preview ont été organisées. Quel que soit votre site de prédilection de news JV, vous avez fatalement vu des petites previews de vos journalistes préférés. Beaucoup ont été invités à essayer le jeu. Et ce qui en ressort, c'est que, dans les points positifs, c'est que ça fait plaisir de retrouver un jeu de foot arcade. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu un. Les plus grands jeux, en tout cas, de la vie même des amateurs, hein, les jeux de Captain Tsubasa, mélangeaient quand même un gros côté RPG avec la discipline footballistique. Là, on est vraiment dans de l'arcade. On retrouve tous nos héros préférés avec leur nom d'appellation japonaise, hein, d'origine contrôlée. Bien sûr, maintenant, tout ceci est beaucoup plus surveillé. On n'est plus à la what the fuck comme à l'époque. Des petits points négatifs, quand même, ici et là, sont relevé, notamment une sorte de redondance dans le gameplay, même s'il n'y avait que deux équipes, hein, donc la TO et la New Team, qui pouvaient être essayées lors de ces sessions de preview. Visuellement, ça casse pas des briques, mais en tout cas, on retrouve bien le style de l'animé, et ça fait super plaisir. Les animations, à part les gros coups spéciaux, en tout cas les animations de course, sont un peu bif-bof, on a l'impression que les personnages glissent un peu quand ils courent, enfin c'est un petit peu bizarre. C'est pas très très beau non plus, c'est un peu cheapos en termes de réalisation. Bon, à voir, je pense que tout comme Dragon Ball Z Kakarot, ça, vraiment ça se destine essentiellement aux fans, en espérant quand même que ces mêmes fans ne se sentent pas blousés, en attendant les futures reviews, mais en tout cas, c'est vrai qu'ils savent bien nous monter ça avec des trailers et tout, qui font vachement envie, mais pour l'instant, on va rester prudent. Alors, on n'a pas de date de sortie. En tout cas, moi, j'en vois pas une au moment où j'enregistre cette news. Si je me fie aux précommandes qui sont déjà disponibles, par exemple, à la Fnac, ça nous affiche un décembre 2020. Bon, va falloir se montrer un petit peu patient. Alors, plus d'informations grâce à Nintendo Différence, qui nous explique, hein, que donc ce jeu profite du succès du nouvel animé, le reboot de Captain Tsubasa, produit par David Productions, hein, qui a été diffusé entre avril 2018 et 2019 avec un total de 52 épisodes, donc ça a été diffusé sur ADN, hein, chez nous. Maintenant que je vous ai un petit peu expliqué de quoi il retourne, voilà des petits sons quand même de cloche qu'on a pu entendre ici et là, on va aller un petit peu plus dans le détail, toujours ça grâce à Nintendo Différence, qui aime aller dans le détail et c'est toujours très plaisant. On sait déjà que le jeu disposera uniquement d'un doublage japonais. Les langues confirmées donc pour les textes hein, sont le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais brésilien en plus du japonais. Donc il est décrit vraiment par le développeur hein, comme un jeu de football d'arcade et d'action. Le développeur, je rappelle, c'est Tamsoft hein, qui, en plus de Wan Chanbara, comme nous le rappelait Factor News, sont aussi derrière les séries Seran Kagura ou encore Cyberdimension, Neptunia. D'ailleurs, en ce moment, le studio développe le jeu d'action Inu Maruko, édité par Pixie et prévu sur Switch et PS4. A noter aussi, nous dit Nintendo Différence, que ce n'est pas la première fois que Tamsoft crée des jeux issus de manga ou anime, puisque la société avait développé Gintama Rumble sur PS Vita et PS4, ou encore Ikki, Tuzen, Elecon Fist et X Ross Impact sur PSP. J'espère que je n'ai pas écorché ces noms, toujours un petit peu compliqué. Donc Rise of the New Champions arrivera environ donc 10 ans après le précédent jeu Captain Tsubasa sur console, New Kickoff, hein, qui était sorti en 2010 sur DS et rappelons-le, conçu par Konami. Un peu plus concrètement dans le gameplay, parce que depuis tout à l'heure je vous dis que c'est arcade, mais un peu plus concrètement, on pourra bien sûr utiliser les techniques uniques hein, des héros, offensives comme défensives, avec des commandes très simples, hein, le tout en temps réel. Donc plusieurs modes sont disponibles, histoire, versus, en local ou en ligne, et jouable jusqu'à 4. Bandai Namco a déjà présenté les personnages confirmés à l'heure actuelle sur son site officiel, et je vous dis, on retrouve vraiment, vraiment tous les héros qu'on adore. Moi, je ne sais pas vous, mais Olive et Tom, déjà, je parle au vieux, hein, sur la 5, je me souviens que je sortais du collège en courant pour ne pas louper un seul épisode. Moi, ça me fait très très envie, maintenant, j'espère que le jeu sera à la hauteur du trailer. On a vu qu'avec Dragon Ball Z Kakarot, par exemple, c'était un petit peu compliqué, alors je suis en train de le faire, Dragon Ball Z Kakarot. Alors la revue de presse JV n'est pas l'endroit, n'est pas le format où je peux vous exposer des grandes critiques de jeu, même si parfois ça me titille. Dragon Ball Z Kakarot, pour l'instant je suis encore, je dois avoir une dizaine d'heures de jeu. Je vois déjà les grandes limites du jeu, mais j'y prends beaucoup de plaisir puisque je suis très fanboy de Dragon Ball. Mais je peux comprendre que certains s'en sont lassés au bout de 30-40 heures de jeu, moi j'y suis pas encore. Je ne sais pas si je me lasserai ou pas de Dragon Ball Z Kakarot, mais je peux comprendre que ceux qui ne sont pas très Dragon Ball ne sont pas attirés plus que ça. Et j'ai l'impression qu'avec ce Captain Tsubasa, on soit à peu près dans le même truc, quoi. C'est-à-dire que ça va être super marrant pour les gros fans hardcore, mais que les autres vont peut-être se sentir un petit peu en dehors de tout ça. Bon, écoutez, on va attendre de voir, comme je vous le disais, au niveau de la date de sortie, elle n'a pas été visiblement annoncée officiellement, même si je vois, comme je vous le dis, un décembre 2020 sur Fnac.com. Vous aimez la revue de presse JV et vous désirez soutenir l'émission tout en obtenant de chouettes contreparties? Eh ben, il y avait une page Tipeee pour cela. Il y a toujours une page Tipeee pour cela. Et je remercie d'ailleurs tous les tipeurs vraiment de me soutenir. Merci à eux. Mais en plus du Tipeee qui reste en place, hein, si vous êtes sur Tipeee, ça ne change rien. Il est en place, ça ne bougera pas. Mais en plus du Tipeee, il y a maintenant aussi un Patreon. Le Tipeee n'est plus seul, il a un camarade. Donc c'est patreon.com/la revue de presse JV, tout collé. Vous pouvez me soutenir via Patreon, comme vous pouvez me soutenir donc sur Tipeee. tipeee.com/la revue de presse JV. Vous savez, donc ça vous donne maintenant deux moyens pour me soutenir. Les contreparties sont les mêmes, les paliers sont les mêmes. Les contreparties, donc, je les rappelle, hein, c'est avoir accès en avance au sommaire de l'émission et de ses modifications tout au long de la semaine. Donc ça, sur la page Tipeee et sur la page Patreon, maintenant, vous avez accès à cela. C'est-à-dire qu'au fil des jours, vous pouvez voir vraiment l'émission, le chemin de fer de l'émission, le sommaire se construire avec ses modifications, etc. Vous avez donc la possibilité d'avoir accès donc, à toutes les news hein, de l'émission. Chaque mois, je fais un point sur l'audience, par exemple. Parfois, je vous fais des petits billets, etc. Donc ça, c'est que pour les tipeurs et pour les Patreons. Aussi maintenant, désormais. Vous avez la possibilité donc de proposer des sujets pour la brochette de news, des coups de gueule, des coups de cœur, vous le savez. Et vous avez aussi la possibilité de participer à la grande revue de presse JV ou de chez vous, tranquillement, avec votre micro, votre connexion internet. Vous pouvez participer donc à cette grande émission à mes côtés. Voilà, donc désormais, il y a le Tipeee, il y a aussi le Patreon. Donc si vous voulez me soutenir, je vous en remercie vraiment grandement. Et je fais mille bisous vraiment à ceux sur Tipeee et au futur sur Patreon. de me soutenir, car vraiment, cet engagement que vous avez envers l'émission, c'est vraiment ce qui me donne la patate de n'avoir aucun jour de repos, finalement. Car je fais l'émission, vous le savez, le week-end, et certains soirs de semaine, en plus de mon boulot. Et au-delà du type, de l'aspect financier, c'est vraiment cet engagement que vous avez envers l'émission, bah, ça me touche vraiment toujours beaucoup. Bref, coup de gueule de Bieber Jack, ex CWDJU, comprendront hein, les habitudes d'émission, qui nous parle de ce papa qui a modifié l'adaptatif contrôleur de Microsoft hein, pour que sa fille handicapée joue à Breath of the Wild. On a pu lire ça notamment sur itech.fr et c'est vraiment une très très belle histoire oui, de ce papa, Rory Steele, hein, papa donc d'une petite fille handicapée qui avait comme rêve de pouvoir jouer donc à Zelda Breath of the Wild. Donc son père s'est lancé dans la conception d'un adaptatif contrôleur qui soit compatible avec la Nintendo Switch. Et il a réussi, et c'est fabuleux. Et c'est vrai que de voir la joie sur le visage de cet enfant qui joue à Breath of the Wild, vraiment, ça vous met les larmes aux yeux. Donc vraiment, je souscris totalement à ce coup de cœur. Bieber Jack, merci à toi. Et aussi pour revenir sur le doc concernant la masculinité dans le jeu vidéo, doc de Game Spectrum hein, qui est revenu donc en 2 semaines consécutives en coup de cœur hein, dans l'émission. La semaine dernière c'était Lina Nounette et HXC la semaine d'avant. J'ai vu le doc et vraiment il est formidable. Il vous apprend plein de choses, moi j'en ai appris beaucoup. Et c'est vrai que ça nous rappelle même, alors moi je m'y suis retrouvé un petit peu hein, sur ce moule de masculinité qu'on nous impose, ce modèle que j'ai toujours combattu aussi. Il y a pas mal de choses et surtout sur l'impact au-delà de la sphère jeu vidéo, c'est très très intéressant et voilà, sur la philosophie de ce doc, un peu sa vision sur certaines choses, je me suis beaucoup retrouvé. Donc vraiment la chaîne Game Spectrum, je vous invite à aller voir ce doc qui est vraiment formidable. Voilà, et donc bah, n'hésitez pas, chers contributeurs de l'amour, de me faire part de vos coups de gueule et coups de cœur pour la semaine prochaine. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à en causer autour de vous, à partager un max sur les réseaux sociaux, c'est vraiment super important. Un commentaire, une question ou juste une envie de tailler le bout de gras avec votre serviteur et les autres auditeurs, eh ben c'est simple, il y a le compte Twitter de l'émission, @revuedepressejv, tout collé. Il y a aussi la page Facebook, hein, vous tapez simplement Revue de Presse JV et bim, vous tombez dessus. Sinon, l'émission a un superbe Discord abritant une non moins superbe communauté. Tous les liens, de toute façon, sont en description de cet épisode. Je rappelle que toutes les éditions sont dispo H24 sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et sur quasiment toutes les applis de podcast, sans oublier la web radio Play Geek hein, où l'émission est diffusée chaque mercredi. Bref, je suis partout. Oui, c'en est presque flippant. Quand les jeux vidéo s'invitent dans les cours d'histoire, l'exemple avec un professeur de Thiers dans le puits de Dôme. Ça aussi, hein, c'est un peu une marotte dans l'émission, je vous ai déjà parlé du jeu vidéo qui s'invite hein, dans l'éducation à divers niveaux. Et là, un nouveau papier qui va dans ce sens, qui m'a beaucoup plu, qu'on a pu lire sur lamontagne.fr, donc ça se passe à Thiers, dans le Puy de Dôme. Et en préambule, le papier nous dit qu'aujourd'hui, les jeux vidéo s'intéressent aussi à l'histoire, bon ça, nous, on le sait déjà. Et donc, on nous parle de William Brou, dont j'ai déjà parlé dans cette émission, professeur d'histoire-géographie, donc à Thiers, dans le Puy de Dôme, animateur de la chaîne YouTube Histoire en jeu, et donc qui répond aux questions de la montagne avec des réponses toujours très pertinentes, et j'avais envie de vous en parler ce matin. Et donc on lui demande s'il est possible de construire une culture historique à partir des jeux vidéo. William Brou répond, je cite, hein, qu'il suffit d'aller dans les amphis et d'écouter les étudiants. Beaucoup vont dire, explique-t-il, qu'ils ont découvert l'histoire avec des jeux vidéo. À la fin des années 90, au début des années 2000, quand Internet était moins répandu, beaucoup de gens ont appris l'histoire avec des jeux comme Age of Empires ou Total War. Il y avait des mini-encyclopédies Universalis à l'intérieur. Concernant la véracité historique, il nous explique que malgré la bonne volonté des développeurs, il y a forcément une orientation puisque même les historiens sont orientés. Bon, ça, c'est un vaste débat. Il nous dit en outre que les jeux vidéo sont datés, ce sont des constructions dans un moment donné de l'histoire. Si on prend le jeu César III, par exemple, il présente un empire romain colonisateur qui ressemble beaucoup trop aux empires coloniaux européens du 19e siècle. Or, nous dit le professeur, il faut plutôt parler de conquête romaine et de romanisation grâce à la diffusion d'éléments culturels comme la langue, par exemple. Alors on lui pose la question, pourquoi les enseignants doivent-ils s'intéresser aux jeux vidéo? William Brew répond, c'est devenu l'une des œuvres culturelles les plus pratiquées et les plus vendues dans le monde. Comme n'importe quelle œuvre culturelle, ces jeux transmettent leur représentation économique, politique, religieuse parfois, de ceux qui les construisent. Il faut conduire les élèves à prendre du recul, à être conscient que le jeu est une construction. Ils ne sont pas conscients qu'il y a autant de personnes qui travaillent sur un jeu, qu'il y a des mécaniques, des phénomènes d'addiction et que la progression dans le jeu est calculée. Le journal lui demande comment il travaille avec ses élèves. Il nous dit ceci. En classe, on n'a pas le volume horaire suffisant pour critiquer un jeu entier. On en regarde un, on réfléchit sur deux ou trois points saillants. L'idée, c'est de faire entrer une mécanique, un réflexe dans leur tête. Il faut amener les élèves à s'interroger. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme je le vois dans le jeu, par exemple? Une fois qu'ils se posent la question tout seuls, j'ai fait mon boulot. Concernant l'accueil des élèves, il nous dit qu'il ne peut y avoir qu'un bon accueil. Et même si certains des élèves très 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 scolaires ont peut-être un peu plus de mal à voir l'intérêt de la démarche. Il nous dit que parler de la Révolution française à travers Assassin's Creed, ça change la manière de l'aborder et ça apporte un peu d'oxygène dans le cours. Alors concernant les résultats, vraiment de s'appuyer sur le jeu vidéo, il nous dit qu'on ne le mesure pas encore. Hein. William Brew nous explique, je cite, « Pourtant, j'ai tendance à croire que mes élèves ont un meilleur regard critique sur les jeux vidéo et les images. Ce que je fais vient compléter ce que font d'autres collègues sur le cinéma, les séries télévisées, la littérature ou l'art pictural. Il faut travailler à plusieurs pour faire une éducation à tous les médias. » Alors la montagne pose cette autre question, à savoir si cette approche critique est-elle indispensable avec des enfants. William Brew répond, je cite à nouveau, « Je me pose même pas la question. C'est un média très présent dans la société, donc on se doit de former nos élèves. Beaucoup de jeux sont engagés, dangereux sur certains points. Si l'école reste dans le discours « Fortnite c'est nul, c'est de la sous-culture », elle est dans une position de jugement, donc elle n'est pas crédible. De toute façon, les élèves y jouent, donc à nous de déconstruire les dangers avec eux. » Et à la question « Est-il trop tard pour les adultes ?», il dit « Non, je fais du serious gaming avec les élèves, mais il y a tout un pan de l'usage sérieux du jeu vidéo à explorer en dehors de la classe. C'est pour ça que j'ai lancé le cycle de conférences Histoire en jeu. Ma chaîne YouTube Histoire en jeu, c'était aussi au départ pour pouvoir expliquer aux parents les jeux auxquels leurs enfants jouent. Je voulais leur donner des outils pour pouvoir critiquer ces jeux, leur montrer aussi qu'il peut y avoir des problèmes comme des anachronismes, ce qui n'est pas très grave, et qu'il peut aussi y avoir de très bonnes choses. » Alors bien sûr, dans l'émission, dès que je vois un exemple vraiment très positif du rapport jeu vidéo école, je vous en parle. Là, donc, on a parlé ce matin à nouveau de William Brew, mais je guette, voilà, dès que je vois quelque chose là-dessus, vous le savez, si vous êtes fidèle de l'émission, je trouve ça vraiment très 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 intéressant. Et cette une certaine génération là, de professeurs qui s'appuient sur le JV, je trouve ça vraiment formidable. Et d'ailleurs, c'est comme tout le reste, qu'on soit pour ou contre, le principal, c'est d'en parler de toute façon. Hein, ça, je trouve ça primordial. Et si vous avez des exemples vous-même, n'hésitez pas à m'en faire part sur les réseaux sociaux ou ailleurs. C'est ainsi que se termine cette émission. Merci encore de l'avoir suivi. Merci aux tipeurs, hein, vraiment merci aux contributeurs de l'amour. Alors, j'aimerais remercier Bertrand Amar, Crocodine, Neo Calimero, Pipo Letsu, Mopral, Siwi Diju, Trifon, Electrotactics, Tophobie, Fabien, Yvan Le Pierrot, Machin Truc 76, Garan, HXC, Lina Nounette, Pikachu, HL9, Nicolas, Vanifraise, X Nihili, Carnoct, Melcoc, Lutherian, Aza, Slokoane, Evolix, Forza Pedro, JP Madère et l'incontournable Monsieur A. Merci à toutes et tous. Alors si j'ai oublié 2-3 noms, ne vous inquiétez pas parce que j'ai ma liste de tipeurs sur Tipeee qui est en train de qui me fait un petit peu des cagades. Donc si vous n'entendez pas votre nom ce matin, pas de panique, il sera là la semaine prochaine. Et j'aimerais aussi remercier Gontran sur Patreon, puisque vous savez qu'en plus du Tipeee, il y a le Patreon hein, si vous voulez me soutenir. Donc merci à toi, Gontran. Je vous donne rendez-vous donc lundi prochain, hein, même heure, même chaîne, même flux, vous ne le savez que trop bien. Je vous souhaite panache et robustesse pour la semaine qui vous attend. Et puis voilà, gros béco et à tantôt, comme on dit. Allez, bye bye.